Continuer notre étude sur 1 Corinthiens, épître de Paul aux Corinthiens, nous sommes rendus au chapitre 3. Paul va nous parler essentiellement dans ce chapitre d'une fausse conception des gens que les Corinthiens se faisaient du rôle des serviteurs de Dieu, des prédicateurs, etc. Une fausse conception que les gens avaient et se faisaient du rôle des prédicateurs. Alors, nous allons y aller par bloc de versets. Je vais prendre les deux premiers versets. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Alors, rappelez-vous que le problème, il y avait un problème de division à l'église de Corinthe. Il y avait un problème vraiment qui préoccupait Paul. Et le problème dans l'église de Corinthe avait une double origine. Il y avait d'abord une origine extérieure, l'origine extérieure qui sont donc laissés tous des profiteurs, des gens qui s'infiltrent, etc., pour prendre la parole dans l'église et inculquer n'importe quel type d'enseignement. Hein. Et les Corinthiens ont perdu la capacité de recevoir la vraie vérité, à ce qu'ils ont été, on leur a rentré tellement de choses dans la tête. Donc, il faut faire attention à qui on prête son oreille. À force d'entendre des choses qui ne sont pas les vraies, ça risque de faire que vous devenez peu perméable à la parole de Dieu. Quand elle vient, vous dites, non, non, vous sentez que. Donc, le problème était dû à l'extérieur qui s'était infiltré pour propager des faux enseignements à ce moment-là, mais aussi c'était de source intérieure. C'était lié au cœur des gens, au cœur des Corinthiens. Et Paul est en train de se décourager. Il dit, mais moi, j'ai fait un travail. Nous allons voir qu'en fait, quand il écrit cette épître aux Corinthiens, c'est à peu près 7 ans se sont passés entre le moment où il a fait les premiers enseignements et le moment où il leur écrit. Donc, en 7 ans, les gens doivent avoir un peu grandi. En 7 ans, les gens doivent avoir reçu ce qu'on leur a donné et aller plus loin, commencer à prendre des choses beaucoup plus solides. Paul, donc, se décourage de constater le caractère charnel des Corinthiens, qui les empêche de croître, qui les empêche de grandir. Et il faut noter aussi que Paul écrit donc aux Corinthiens 7 ans, 7 ans après la première visite. En 7 ans, quelqu'un qui a eu cet enseignement de base, s'il était engagé, s'il a voulu vraiment mettre ça en pratique, ben, il serait plus bébé spirituel, il serait plus bébé dans la foi, il commencerait à grandir. Mais eux, ils ne sont pas du tout avancés parce qu'ils ne le voulaient pas. Double origine. Il y a l'origine extérieure, mais il y avait aussi le cœur des gens qui étaient en cause. Ils ne voulaient pas tout simplement aller vers la maturité. Ils étaient contents avec ce qu'ils avaient. Je vais donner 3 définitions avant de continuer. C'est des mots qui vont revenir ici. On parle d'homme naturel, d'homme spirituel et d'homme charnel. L'homme naturel, c'est l'homme qui n'est pas régénéré. C'est l'homme animal, on va dire. Il n'est pas régénéré. L'esprit de Dieu n'est pas en lui. Il fait des choses selon sa propre nature. Nous avons l'homme spirituel qui, lui, possède l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui est là pour le conseiller, pour le diriger. Et il se laisse diriger à ce moment-là par l'Esprit de Dieu. L'homme charnel, ici, il a aussi l'Esprit de Dieu, mais il laisse la chair prendre le dessus, volontairement. Donc, l'homme charnel, c'est un croyant qui possède aussi l'Esprit, mais qui ne vit pas selon la parole de Dieu. Il la reçoit, il l'entend, mais il ne veut pas. C'est un choix, c'est une décision qu'il prend de ne pas vivre selon la parole de Dieu. Il se laisse aller au mouvement de la chair. Parce qu'il va beaucoup parler de ça tout le long. C'était important qu'on fixe des choses. Homme naturel, homme charnel, homme spirituel. C'est important qu'on puisse donc en parler. Donc, au verset 1er, il compare les Corinthiens à des hommes charnels. Parce qu'effectivement, ils continuaient à vivre selon la chair, selon les tendances naturelles, alors qu'ils avaient l'Esprit, alors que l'Esprit de Dieu qui était en eux leur parle. L'Esprit nous parle encore aujourd'hui. L'Esprit nous dit, non, ce que tu vas faire n'est pas bon. Nous nous entêtons à faire ce qui n'est pas bon. L'Esprit nous parle. Alors, quand nous nous comportons comme ça, nous devenons comme des hommes charnels, des femmes charnelles. On ne veut pas écouter la voix de l'Esprit. Il les compare non seulement aux hommes charnels, il dit, ce n'est pas. Et il le dit en regrettant, vous comprenez, il dit, mais en fait, après tout ce que j'ai fait comme travail, j'arrive 7 ans après, je parle comme si je parle à des hommes charnels, comme si je parle à des petits-enfants en Christ, des petits-enfants, il les compare à des enfants en Christ. C'est bien qu'on soit bébé spirituel au début de la foi, Mais 5 ans, 10 ans, 15 ans après, on ne peut pas être bébé spirituel, on ne peut pas rester dans l'état de bébé, on doit grandir. Et la parole est là pour nous aider à grandir, il faut l'accepter évidemment pour qu'elle puisse faire effet en nous. Donc, bien qu'ayant l'esprit, il marchait encore selon le monde, parce qu'il voulait rester dans cet état d'immaturité, et Paul vraiment est en train de regretter, et lui, il leur a pourtant dispensé les enseignements de base pour qu'ils puissent progresser dans la foi. Pour Paul, il dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Donc, je me serais attendu, quand je vous parle, de parler à des hommes spirituels. Il est déçu. Vous êtes même inexcusable, parce que 7 ans après, avec tout ce que je vous ai donné, que vous soyez encore à ce niveau, vous êtes vraiment inexcusable. Donc, Paul est vraiment déçu du comportement. Il commence bien ce chapitre, donc il dit, c'est vraiment comme à des hommes charnels que je parle, comme à des enfants. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. En passant, j'ai lu justement que, je ne peux pas vous dire à quelle époque exactement, mais les premiers siècles de l'Église primitive, il semble que quand les gens se faisaient, recevaient la première communion, on leur donnait un verre de lait. Moi, je n'ai pas connu ça à mon époque. On leur donnait un verre de lait pour leur montrer, pour révéler cette vérité ici, que c'est des bébés spirituels. Donc, vous êtes encore bébés, vous êtes encore au lait. Et c'est la même image que Paul utilise ici. Il dit, mais vous êtes comme des enfants, je vous ai donné du lait. Je vous ai donné quelque chose qui est facile même à digérer, qui correspondait à votre niveau, mais je ne vous ai pas donné de la nourriture solide, parce qu'à ce moment-là, vous ne pouviez pas avoir de nourriture solide. Vous étiez encore vraiment des bébés spirituels. Par contre, il ne faut pas rester dans cet état de bébé spirituel. Il leur a dispensé un enseignement pour qu'ils puissent progresser dans la foi. Et l'attitude des Corinthiens indique une tragédie que nous avons encore aujourd'hui. Des gens qui s'arrêtent au stade, on en a parlé tellement dans Romains, au stade du salut, mais qui ne veulent rien entendre de ce que c'est que la sanctification, qui est une autre étape. On a le salut, mais pas pour rester au salut. Jésus ne nous a pas justifiés seulement, mais il nous a justifiés pour que nous puissions aller plus loin au niveau de la sanctification. Donc, rester bébé spirituel, c'est de dire, oh, j'ai le salut, et puis je ne fais pas plus d'efforts. Je ne veux pas me sanctifier, etc. On veut Christ qui sauve, mais on ne veut pas Christ qui règne. Nous venons de chanter. Hein? Il faut qu'il règne dans notre vie. Il faut qu'il soit Seigneur de notre vie. Il faut que ce soit lui qui dirige notre vie. Il faut que nous l'acceptions. Nous pouvons l'accepter. Il y a des gens qui l'ont accepté juste comme un sauveur. Donc, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. La parole de Dieu ne diffère pas. Par contre, quand je parle, je m'adresse à des gens qui sont nouvellement convertis, je vais ajuster le message au niveau de ces gens. C'est la même parole de Dieu. Mais c'est la même parole qui va être prêchée à une personne qui est mature. Mais avec lui, on va aller plus en profondeur. La parole de Dieu ne change pas, elle est la même. La vérité est unique, elle ne change pas, mais elle est présentée avec différents niveaux de compréhension selon le niveau de maturité des gens à qui on s'adresse. Le lait, c'est des vérités de base. Jésus vous aime. C'est d'ailleurs davantage les choses de bénédiction qu'on présente aux gens. Vous venez à Christ, Jésus, il vous a aimé le premier. Il vous a aimé avant la fondation du monde. Il vous a aimé, il est mort à la croix pour vous. Toutes des bonnes choses pour les accueillir. Et bien l'enfant, il a besoin comme ça d'être entraîné. Donc, le lait spirituel, c'est des vérités de base qui sont présentées aux nouveaux convertis. Qui vont davantage parler des bénédictions de Dieu. Quand Christ entre dans votre vie, voici ce qu'il vous apporte. Le salut gratuit, la grâce de Dieu coule sur votre vie. Mais plus tard, avec ces personnes, vous allez un pas plus loin. Vous allez dire, mais il est sauveur, mais il est aussi Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire être Seigneur? Alors vous commencez à creuser. Donc on leur donne la nourriture qui est considérée comme de la vérité de base, mais qui n'est pas solide, qui sont donc des aspects un peu plus poussés de la doctrine. On entre plus en profondeur dans ce qui est la doctrine chrétienne. Et Paul, on voit ici au verset 2 qu'il regrette 7 ans après qu'ils ne sont toujours, même pas à présent, ils ne sont pas prêts à recevoir la nourriture solide. C'est vraiment regrettable pour quelqu'un qui a travaillé, qui a laissé une église en place et qui aimerait tellement voir ces gens grandir. C'est regrettable de s'adresser à lui et dire, mais vous ne le pouvez même pas à présent. Vous ne pouvez même pas supporter aujourd'hui, dans l'état où vous êtes resté à l'état de bébé, vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. Alors, versets 3 et 4. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul », un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Il montre tout de suite, à la suite du verset 2, il dit « Parce que vous êtes encore charnels ». Et on sait que les fruits de la chair, selon Galates, nous le savons, Galates 5, verset 19, parmi les fruits de la chair, etc., on cite la jalousie, on cite les disputes, etc. Il dit, mais donc, puisqu'il y a encore de la jalousie, il y a encore des disputes, ça confirme vraiment que vous êtes encore charnel. Hein? Il est dit, n'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas selon l'homme. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes. Donc, lui, il aimerait tellement, évidemment, aborder avec des sujets d'ordre plus spirituel, plus important. Mais le drame des Corinthiens ici, c'est qu'ils veulent demeurer des bébés dans la foi. Vous pouvez deviner que ceux à qui il écrit une telle lettre, ils n'ont pas reçu cette lettre avec un sourire aux lèvres. C'est dur, les propos qu'il leur tient, là, c'est dur. Des gens qui se croient chrétiens, croyants, avancés, matures, sages, selon leur propre intelligence, là, mais qu'on leur dise, vous êtes comme des bébés, vous êtes encore au lait maternel, etc., et vous ne pouvez pas avoir la nourriture solide, c'est vraiment regrettable, ce n'était pas des propos qui ont dû être bien accueillis. C'est la même chose aujourd'hui, les gens veulent entendre ce qui leur plaît. Les gens veulent entendre, oh, vous êtes bénis. Les gens veulent entendre les messages de prospérité. Tout le monde veut entendre. Même nous, nous disons des choses, mais nous voulons entendre le message de prospérité, oui. Oui. Mais par contre, il faut qu'il y ait un équilibre dans ces choses. Il n'y a pas que des bonnes choses, il y a aussi quelque part où la parole nous reprend sur des attitudes qui ne sont pas bonnes. Donc, nous devons aussi être prêts à écouter des messages qui nous remettent, qui nous poussent à nous remettre en question. Nous devons aussi être prêts à écouter des messages qui nous parlent sur le don de soi. Je ne vis plus pour moi-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, je me donne, je ne m'appartiens plus, je ne peux plus faire ce que je veux. Souvent, quand on dit ça aux gens, ben, il entre dans ma vie privée, on n'est pas on n'est pas une secte. On en parlait avec quelqu'un dernièrement. Non, c'est vraiment pas ça. On est là pour recevoir la parole de Dieu dans son entièreté. Elle est là pour nous exhorter. À savoir donner de nous-mêmes, donner de nos biens, donner de notre temps, donner de notre savoir-faire. Pas toujours, nous sommes puissants dans le nom de Jésus. Ben, c'est vrai que nous sommes puissants dans le nom de Jésus, mais aussi que nous devons savoir que Dieu attend de nous que nous nous donnions. Hein? Notre épaule, je viens de le dire tout à l'heure en introduction, il a besoin de notre épaule. Un bébé spirituel n'est pas prêt à donner son épaule pour porter le poids. Il dit, je ne suis pas venu à l'église pour porter le poids des autres. Pourtant, quand nous avons étudié Galates, nous avons dit ça. Que les plus forts portent les plus faibles. Nous l'avons vu. Nous sommes là pour porter les fardeaux des uns des autres. On n'aime pas ça. Ce n'est pas ma vie, ce n'est pas mes affaires. Non, c'est votre affaire. C'est votre frère, c'est votre sœur. Portez-le dans le Seigneur. Amen. Donc, le caractère charnel que nous venons de voir ici, la jalousie et les disputes, relève donc de ces fruits de la chair qui sont évoqués dans l'épître de Paul aux Galates toujours. Donc, au lieu de se concentrer sur Jésus, l'Église, ici, se focalise sur l'homme. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. C'est l'Église de Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître de l'Église. C'est lui qui est la tête du corps. C'est lui qui dirige l'œuvre. C'est lui qui oriente son Église dans la direction. C'est lui qui a des desseins. Nous avons dit ça tout à l'heure. Il a des desseins qu'il a formés pour nous, pour que nous les réalisions dans notre vie. Il y a des desseins. Donc, nous devons marcher à la suite de sa volonté. Alors, au lieu de chercher à nous focaliser sur l'homme qui est pourtant un être faible, un être faillible, comme nous. Je suis faillible comme vous. Je ne suis pas le pape, parce qu'on dit que le pape est infaillible. Je ne suis pas le pape, mais je suis faillible. Et on ne peut pas se focaliser sur un homme, fût-il docteur en ci, docteur en cela. Il peut se tromper. Il peut se tromper. Nous devons toujours amener tout à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Donc, au lieu d'une conduite mûre, empreinte d'humilité, du souci des autres, les Corinthiens étaient égocentriques. Moi, je suis d'Apollos. C'est lui que moi j'aime. Des deux là, qu'il y a dans l'église là, c'est lui. Moi, l'autre là, quand lui il prêche dimanche, je ne veux même pas être là. Non, il n'y a pas d'Apollos, il n'y a pas de Paul, il n'y a pas de Pierre. Nous sommes là, amen. C'est des ouvriers. Tous, nous sommes des ouvriers que le Seigneur veut utiliser pour sa gloire. Et le Seigneur les utilise différemment. Il a donné des dons différents à chacun d'entre eux. Donc, pas d'égocentrisme, pas de parti pris, c'est ça qui est à la base donc, des divisions que nous avons vues au chapitre 1er, les versets 10 à 17. Nous avons vu que les divisions donc, naissaient du fait qu'on s'attachait plus aux hommes qu'au maître de l'Église. Versets 5 à 9, je vais lire de 5 à 9. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Paul insiste ici sur l'humilité qui doit caractériser les serviteurs de Dieu. On a tendance à les élever, mais Paul insiste sur l'humilité. Voyez-vous le thème qu'il utilise? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Il ne dit même pas qui est Apollos ou qui est Paul. Qu'est-ce? Il ne veut même pas personnaliser la chose. Il ne veut même pas personnaliser la chose. Il insiste sur l'humilité qui doit caractériser les serviteurs de Dieu. Aucune attention ne doit être attirée sur leur personnalité. Lui-même fait la même chose, le même exercice. Il aurait pu dire, qui est Paul? Non. Qu'est-ce Paul? Il ne veut pas attirer l'attention sur eux. Même pas. C'est fort, hein? C'est fort. Pour dire que vraiment, nous ne devons pas nous baser sur les humains, etc. Mais nous ne devons pas attirer l'attention sur la personnalité des gens. Mais ils ne sont que des simples canaux. Ce sont des simples instruments entre les mains du Seigneur qui doivent être malléables entre les mains du Seigneur. Et nous ne pouvons pas leur donner un autre statut que le maître ne leur donne. Le maître qui les envoie, il dit que vous êtes des canaux, je vais passer par vous. Vous êtes des instruments entre mes mains. Je veux passer par vous pour faire ceci, mais il ne faut pas que vous, vous commenciez à chercher la gloire qui me revient à moi. Vous êtes simples canaux, des instruments. Et le salut que vous avez reçu, il le dit ici, des serviteurs par les moyens desquels. C'est un moyen par lequel vous avez cru. C'est vrai que Dieu s'est servi d'eux et vous, vous avez décidé de croire. Mais vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Montre que le salut, même s'il y a l'aspect de volonté humaine, de dire « je veux croire », il y a la volonté, il y a le désir personnel, mais le salut, c'est un don gratuit de Dieu. C'est une question de grâce. C'est une question de grâce. Nous pouvons mettre notre volonté, mais sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons y arriver si nous n'avons pas la grâce. Le salut, donc, n'est pas l'œuvre des serviteurs, mais c'est tout simplement la grâce de Dieu. Amen. Et Christ veut donc dire, Paul veut dire ici que Christ seul avait produit la foi en eux. C'est Christ. Donc, vous êtes, ils sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Vous avez eu la foi par le canal de leur ministère, selon que Dieu vous a donné cette grâce à chacun d'entre vous. Donc, ils ne sont responsables de rien là-dedans. C'est vraiment toute la gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Alors, le rôle de serviteur ici, il veut montrer aussi qu'il ne doit pas y avoir de compétition. Il dit que les deux sont égaux. D'ailleurs, ce qui va dans le même sens pour montrer que Dieu ne veut pas accorder l'importance aux serviteurs. Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Plus loin au verset 7, je vois ici, il dit, mais ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Il n'a même pas dit quelqu'un, qui est quelque chose. Vraiment pour montrer que, mettez pas l'accent là-dessus. Ce qu'il y a aussi, il dit que celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun a un rôle à jouer. Mais vous êtes égaux et chacun recevra sa propre récompense selon le travail qu'il aura fait. Et il utilise justement deux comparaisons, deux métaphores là-dedans. Il utilise deux métaphores que l'on voit quand il dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il utilise la même métaphore quand il parle de planter et d'arroser. Il utilise la métaphore sur l'agriculture. Toujours ramener des choses au niveau où les gens peuvent facilement comprendre. Hein? Et donc, quand il leur parle de l'agriculture, ils comprennent ce que c'est planter, ce que ça demande et ce que c'est arroser. On va dire que planter, c'est plus dur parce que tu dois piocher, tandis que l'autre arrose, il vient juste avec l'eau, il met, s'il a des tuyaux, il arrose simplement, c'est pas pareil. Mais par contre, il dit que tous sont égaux et tous ont la même considération vis-à-vis de Dieu. Amen. Parce qu'ils poursuivent tous le même objectif. Alors, les métaphores, c'est avec le monde agricole, il montre que l'évangile, c'est une semence, et effectivement, que l'on plante et que l'on arrose, et c'est Dieu qui fait croître. Nous, nous nous limitons à notre rôle de planter ou d'arroser, mais celui qui va faire croître, c'est Dieu. Il compare aussi avec le monde du bâtiment ou de la construction, là, parce qu'il dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu, que Dieu est en train de bâtir. Et vous êtes le champ de Dieu que Dieu est en train de cultiver et de faire grandir et de faire porter des fruits. Nous sommes, dit-il au verset 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est un privilège d'être ouvrier avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. C'est facile. Alors, souvent, donc, on fait des remarques. Ça, c'est une réflexion que je me suis fait en lisant ce passage. Souvent, et peut-être dans le cas de l'église de Corinthe, on a tendance à mettre la faute sur les dirigeants. C'est comme si c'est Paul, c'est comme si c'est Apollos, c'est comme si c'est face Pierre qui était en train de tirer les draps de leur côté. Chacun veut avoir... Non, dans ce cas-ci, c'est l'église, c'est-à-dire que c'est les fidèles. Ce sont les fidèles qui eux disent « moi j'appartiens à tel ». C'est eux, ça vient de la salle, commencer à diviser, commencer à avoir des préférences pour tel ouvrier plutôt que pour tel autre. Ce n'est pas eux qui ont dit, qui veut être de mon bord, qui veut être de mon côté, qui veut travailler avec... Non, ce n'est pas eux. Souvent, on a tendance à blâmer, mais des fois, ça vient de l'Église. Il faut faire que l'Église fasse attention pour que l'Église ne soit pas elle-même à la base d'une division, d'un éclatement, parce qu'on veut avoir des préférences pour tel serviteur plutôt que tel autre. Quand il y a 3-4 pasteurs dans l'église, on veut plus celui-là plutôt que tel autre. C'est des choses qui créent des jalousies, qui créent des divisions. Ça ne vient pas nécessairement des pasteurs. Ils peuvent l'arrêter. Les serviteurs doivent veiller sur eux-mêmes, évidemment. Et c'est vrai. Moi, on ne peut pas me pousser à faire quelque chose si je ne veux pas le faire. On ne peut pas me pousser à dire, bon, écoute, toi, tu es meilleur, l'autre n'est pas meilleur, si je ne veux pas le faire. Il faut aussi qu'ils jouent leur rôle de dire, j'accepte que j'ai ma part et l'autre vient me compléter. Il y a un don qui est particulier à chacun de nous et que nous devons respecter et ne pas se laisser entraîner dans des choses qui divisent l'Église du Seigneur. Souvent, on va dire que c'est la faute des ouvriers s'il y a division. Pas toujours. C'est souvent l'Église. Et il y en a qui ont tendance à élever trop des hommes, etc. Et ça crée des frictions. Quand c'est lui qui prêche... Tout le monde est debout quand c'est lui qui... Tout le monde acclame. Et quand c'est moi et les gens s'endorment ou des choses comme ça, il peut y avoir la part de responsabilité du prédicateur aussi, mais il faut éviter quand même ces choses naissent dans l'assemblée. Donc, c'est un message pour l'Église du Seigneur. Nous lisons à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Alors, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Donc, à partir des 7 prochains versets, 10 à 17, Paul ici fait le développement de la responsabilité de l'ouvrier et il veut parler du principe des récompenses. Comment ceux qui travaillent sont récompensés selon le principe on récolte ce qu'on sème. C'est un principe que on connaît beaucoup dans la parole de Dieu et Jésus en a beaucoup parlé. Donc, il veut développer la notion de responsabilité de l'ouvrier par rapport à son travail. Le Seigneur ne nous a pas placés là-bas juste pour être des dirigeants. Nous avons une responsabilité et nous aurons à répondre de la manière dont nous nous sommes comportés pendant que nous faisons le travail du Seigneur. Il dit, en ce qui le concerne lui-même, il dit, « Moi, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et je ne l'ai pas fait parce que je suis meilleur qu'un autre. Je l'ai fait selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée à moi. Et j'ai posé le fondement de Jésus et de Jésus seul, selon un sage architecte, comme quelqu'un d'averti. Paul a posé le fondement. Paul a semé. Mais Apollos et d'autres sont venus sur ce champ. Ils sont venus arroser. Ils sont venus bâtir. Ils sont venus apporter quelque chose de plus que Paul n'a pas donné, de sorte que le résultat doit appartenir à Dieu. Notre responsabilité, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Déposer la semence, lorsque je pose le fondement, je dépose la semence. Il y a un autre qui viendra après moi, qui va semer. Je suis venu dans cette église, il y avait quelqu'un qui avait posé le fondement, c'était Michel, mais quand je suis venu, j'ai arrosé, et le travail a porté des fruits. Amen. Donc, Paul a posé le fondement, il a semé comme un sage architecte, parce qu'il a fondé son message sur la prédication de la croix et rien d'autre. Je suis venu avec vous, pas avec les connaissances des savants, des philosophes, mais je suis venu avec le message de la croix. Voici le seul fondement valable sur lequel nous devons poser l'œuvre de Dieu et le travail. Je prêche Christ et Christ crucifié, point. Voici le fondement que j'ai posé, et je l'ai posé en sage architecte. Là, c'est sûr qu'il fait un peu allusion à son rôle d'apôtre. L'apôtre, son rôle, c'est de poser vraiment les bases d'une église, etc. Il l'a posé en sage architecte. L'architecte, c'est celui qui a la responsabilité de la bâtisse. Donc, l'architecte ne fait pas juste le fondement. L'architecte fait le fondement, il fait les plans pour même la construction de la partie supérieure. Donc, il dit, en tant qu'apôtre, évidemment, il montre son autorité d'apôtre, etc., sur les autres qui sont venus bâtir après lui. Donc, c'est des gens avec qui il était en contact. Il dit que tout enseignement doit donc être centré sur Christ et sur Christ seul. Personne, au verset 11, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. Si quelqu'un vient après moi et qu'il veut poser un autre fondement que Christ, qu'il soit anathème. Très bien, ça. Je vois que vous avez retenu les leçons antérieures. Qu'il soit anathème. Le seul fondement valable au verset 11, c'est Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, et là, il parle des matériaux. Les matériaux utilisés pour faire le travail que le Seigneur nous demande de faire est important. Nous sommes des canaux. Le Seigneur nous donne des moyens, mais qu'est-ce que nous utilisons? Oui, nous posons le fondement de Jésus-Christ, et puis après, les matériaux pour bâtir, les matériaux pour semer, etc., pour arroser. Qu'est-ce que nous utilisons? Si tu arroses avec de l'acide, c'est clair que ça va tuer tes plantes. Hein? Si tu bâtis avec, je ne sais pas, des briques en paille ou je ne sais pas quoi, le bâtiment n'est pas sûr de tenir très très fort. Donc, les matériaux qu'on utilise sera éprouvé le jour du Seigneur. Il y a un jour, peut-être ici-bas, vous ne le voyez pas, et c'est pour ça que beaucoup de gens se permettent n'importe quoi. Il y a des serviteurs de Dieu qui font des choses n'importe comment, comme s'ils oublient qu'il y a un jour où nous tous nous rendrons compte. Nous rendrons compte de ce que nous avons fait avec les dons, avec les talents que nous a donnés. Nous rendrons compte avec comment tu as géré l'église que je t'ai confiée, je t'ai mis là-bas comme berger. Qu'est-ce que tu as fait de cette église? Nous rendrons compte. Nous rendrons compte sur des matériaux que nous aurons utilisés. Ce matériau sera utilisé non pas en vue du jugement, on peut croire parce qu'on parle de feu, le jugement vis-à-vis du péché. Non, ce jugement-là n'existe plus pour les croyants, pour ceux qui sont en Christ. Il n'existe plus parce que Christ a porté, il a déjà subi ce jugement à notre place. Nous l'avons vu quand nous avons parlé de Romains chapitre 8. Christ a déjà été condamné à notre place. Nous ne pouvons pas être jugés pour le péché. Amen. Donc ce n'est pas ce jugement là-bas. Ça, c'est réservé aux incrédules, c'est réservé aux païens, c'est réservé à ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Mais le jugement que nous allons avoir, l'épreuve que nous allons subir, c'est l'épreuve pour être approuvé de Dieu, être déclaré saint, être déclaré précieux, être déclaré digne du travail qu'il nous a confié, être déclaré honorable. Voici un serviteur honorable. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Jean? Amen. Je m'attends à ça. Que le Seigneur me fasse grâce. Mais oui, mais c'est ça. Un jour, il dit que chacun prenne garde, Il dit, l'œuvre de chacun sera manifestée ce jour-là. Parce que nous passerons devant le Seigneur qui va devoir approuver en vue des récompenses. Il va récompenser ceux qui auront bien travaillé. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous vivrons ce temps, un jour, l'impact que nous avons eu sur la vie des gens, etc. etc. Donc, nous serons testés, nous serons passés par un jugement pour être approuvés en vue d'avoir une récompense. On va lire un texte qui confirme cela dans Apocalypse, chapitre 22, ce qui nous confirme que ce jour viendra. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. C'est évident qu'il y a des récompenses qui nous attendent. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc, notre travail sera éprouvé en vue d'être approuvé. Alors, soit nous aurons utilisé, et c'est là-dessus que vous voyez, il dit que certains qui ont bâti le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Ça, c'est une première catégorie. La deuxième catégorie, c'est du bois, du foin, du chaume. Deux catégories de matériaux que nous pouvons utiliser. La première catégorie, c'est des matériaux de valeur, des choses solides, des choses durables, des choses chères. L'or, l'argent, les pierres précieuses. Est-ce que nous bâtissons avec ces matériaux? Est-ce que nous prenons au sérieux le travail que le Seigneur nous confie? Est-ce que ce que nous utilisons pour bâtir l'œuvre de Dieu, ça finit par produire des chrétiens stables, des chrétiens matures, des chrétiens engagés, des chrétiens consacrés, des chrétiens qui font la joie du Seigneur? C'est là-dessus que le Seigneur nous demandera. Les gens viennent dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, mais qu'est-ce que tu leur as donné? Ils sont à l'image de ce qu'ils ont reçu. Si tu leur as parlé juste de prospérité, jamais tu ne les as prévenus sur les péchés qui les guettent, qu'ils vivent dans le péché, qu'ils vivent dans la négligence, qu'ils vivent dans l'ignorance de la parole de Dieu, qu'ils respectent. Les fruits que tu vas porter vont refléter le type de message que tu as donné. Avec quel type de matériaux tu construis sur ce fondement qu'est Christ? Il faut que ce soit du matériau de qualité, matériau solide, durable, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Mais tu as le choix. Tu peux construire aussi avec du bois, avec du foin. D'ailleurs, la première catégorie, elle résiste à l'épreuve du feu. Ça résiste au feu. Tandis que le bois, le foin et le chaume, c'est léger. Ça. Le vent vient, emporte. Hein. Une petite flamme dessus, ça prend feu et la bâtisse tombe en ruine. Donc, nous devons utiliser des matériaux de valeur qui ne seront pas détruits par le feu. Ça veut dire que c'est des enseignements durables qui vont produire des enseignements solides qui vont produire des œuvres qui durent, des chrétiens solides, des chrétiens qui savent pourquoi ils sont chrétiens, qui savent qu'ils auront des comptes à rendre, qui savent que le Seigneur revient bientôt, qui savent qu'ils doivent se préparer. Voici le type de message que le Seigneur attend de ses serviteurs, qu'on travaille avec des matériaux de valeur, mais pas des matériaux de moindre valeur comme le bois, le foin et le chaume. C'est facile à acquérir, c'est facile à être détruit par le feu. Ça, c'est le type d'enseignement léger que l'on donne, évidemment, aux gens, exactement. Donc, qui est facilement détruit par le feu, des activités qui sont superficielles. Du reste, comme on voit le peuple de Corinthe ici, qui sont restés comme des bébés. Vous les gardez à un niveau de bébé superficiel, des chrétiens superficiels, qui ne changent pas. Un chrétien, depuis qu'il est venu, il est comme... Jusqu'au moment où il va quitter l'église, il est le même. Il ne change pas. C'est Dieu seul qui ne change. Nous devons changer et nous conformer à ce que le message de Dieu nous dit. Donc, il ne doit pas être des enseignements superficiels qui n'ont pas un impact éternel. Bien-aimé, quand on t'enseigne la vraie parole de Dieu, c'est des choses, quand tu as saisi, quand tu prends ça et que tu vis conformément à la parole de Dieu, ça a un impact éternel. Nous nous retrouverons avec des personnes qui vont mettre cette parole qu'on prêche en pratique. Nous nous retrouverons dans l'éternité. Et nous dirons, ah yes, merci Seigneur, il est là. Mais si tu as donné des enseignements superficiels, les gens tombent dans le piège et puis ils ne sont pas enseignés. C'est pour ça que je m'oppose, moi, aux gens qui ne veulent pas des enseignements dans l'Église. L'enseignement a une place dans l'Église. L'enseignement a une place de choix. Une place de choix. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute. Nous aurons des comptes à rendre et nous voulons travailler vraiment pour qu'il y ait un impact durable, un impact éternel et que le Seigneur puisse réellement se glorifier. D'ailleurs, le psaume 127, verset 1 nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. » Si vous ne bâtissez pas sur ce fondement qu'est Christ et que vous bâtissez avec n'importe quel type de matériaux, vous bâtissez en vain. Le Seigneur n'est pas avec vous quand vous servez des matériaux légers, légers comme ça. Mais vous avez le choix. Vous avez le choix. Tout ça est possible. Vous pouvez bâtir. Il y a des gens qui ont bâti des maisons avec du chaume, avec du bois, avec du foin. Rien que ça. Mais vous savez, les risques qu'il y a là-dessus, il est grand. Amen. Et donc, à partir du verset 14, ici, 14 jusqu'à 17, il nous montre trois sortes de bâtisseurs. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, c'est-à-dire c'est un bâtisseur sage, quelqu'un qui est sage, qui a bâti sur le bon fondement, parce que ça va subsister, il aura une récompense, c'est ce qu'il dit. Si quelqu'un bâtit sur le fondement et ce qu'il a bâti subsiste, il recevra une récompense. Ça, c'est le serviteur qui est sage. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. La récompense, c'est les bénédictions que Dieu nous donne. La récompense, ce n'est pas le salut. C'est pour ça qu'on précise ici que si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, mais il ne perdra pas son salut. Il sera pareil, sauvé, comme au travers du feu. On l'a sorti de justice. Il y a un bon texte que j'ai lu, qu'on va voir tout à l'heure, dans Amos, qui en parle. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. On est allé le chercher, on le sort du feu, comme un tison qu'on sort du feu. Il sera sauvé certainement, mais il perdra sa récompense. Ça, c'est le type de constructeur qui est imprudent. L'un est sage, il fait avec les matériaux solides qui vont porter des fruits pour l'éternité. L'autre qui est imprudent, mais il fait avec des matériaux qui peuvent être consumés, etc. Il perdra sa récompense. Il n'aura pas sa récompense. C'est-à-dire, c'est une vie chrétienne qui demeure stérile. Hein. Vous enseignez déjà, mais il n'y a pas de fruits dans la vie des gens. C'est un serviteur qui est imprudent. Il utilise des matériaux qui ne sont pas recommandés, qui peuvent porter des fruits pour l'éternité. Donc, c'est une vie chrétienne qui demeure stérile, qui demeure égoïste, qui demeure marquée par les divisions. Cet homme, ce type de serviteur, ce type de bâtisseur là-bas, il sera sauvé certainement, il ne perdra pas le salut. Parce que le salut, c'est la grâce de Dieu. Amen. Le salut, ce n'est pas une récompense. Amen. Les bénédictions que nous avons dans notre vie viennent parce qu'au départ, nous avons le salut. Nous avons le salut qui nous pousse à l'obéissance, etc. Mais ce n'est pas ça la récompense. Le salut n'est pas une récompense, c'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Il y a une différence entre les deux. On récompense quelqu'un qui a obéi, on récompense quelqu'un qui a fait quelque chose de bien, mais quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Le salut était disponible gratuitement. Nous n'avions rien à faire. Amen. La dernière catégorie de serviteurs dont il parle, ici c'est au verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, ça c'est le troisième type de bâtisseur, quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et au départ, avant ça, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui, c'est une vérité qui est connue, ne savez-vous pas, s'il affirme quelque chose qui est connu. Vous le savez, que vous êtes le temple de Dieu et que vous ne pouvez pas vous comporter n'importe comment. Amen. Et donc, c'est une vérité qui est incontestable. Le destructeur du temple, c'est les faux ouvriers, évidemment, ici, qui lui-même, c'est Dieu qui se vengera parce que la Bible dit que Dieu le détruira. Quand tu viens détruire le temple de Dieu vivant, mais Dieu se chargera. Lui-même va se venger, c'est lui qui va te détruire. Il ne nous appartient pas à nous de le faire. Amen. Et on arrive au dernier verset, 18 à 25, à 23 plutôt. On ne peut pas faire n'importe quoi du temple de Dieu. Si on vient pour détruire le temple de Dieu en apportant des faux enseignements, des choses qui ne sont pas correctes, faites attention, Dieu détruira la personne qui fait ça. Et les gens jouent parce que ce n'est pas comme dans l'ancien temps où Dieu frappait, hein, comme à l'époque d'Ananias et Saphira. Devant, là-bas, vous venez mentir, on dit, tu as menti au Saint-Esprit, et paf, Dieu use de patience. Mais un jour, nous serons devant des réalités, et à ce moment-là, nous rendrons compte à Dieu. Donc, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Il le répète deux fois. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. C'est la conclusion à laquelle Paul arrive dans ce troisième chapitre, une conclusion pratique sous forme d'avertissement. Et l'avertissement s'adresse à deux groupes de personnes. La première partie s'adresse aux ouvriers et la deuxième partie s'adresse à l'assemblée. Les uns et les autres ont une responsabilité dans l'édification de l'œuvre de Dieu. Aux ouvriers, d'abord, il dit que nul ne s'abuse lui-même, que personne ne se trompe lui-même, que personne ne se fasse des illusions, que personne ne se fasse une fausse image de lui-même. Vous croyez être quelque chose, vous n'êtes rien. Vous êtes ce que la grâce de Dieu permet que vous soyez seulement. Que personne ne s'abuse. Dans cette lutte qu'il y a dans la ville de Corinthe, dans l'église de Corinthe, que personne ne s'abuse en disant « moi je suis plus important que nous ». Non. Nous sommes tous égaux. De simples instruments, amen. Ne vous donnez pas une image fausse de vous-même. C'est le cas donc des leaders qui encourageaient, les leaders qui travaillaient dans les coulisses, dans le silence, au milieu du peuple, qui encourageaient les divisions. Vous soyez de Paul, vous soyez d'Apollos, etc. Tous ceux qui encourageaient les divisions, qu'ils arrêtent de se tromper eux-mêmes. Parce que ce n'est pas par leur intelligence, ce n'est pas par l'éloquence d'Apollos qu'il est ce qu'il est, c'est par la grâce de Dieu. Arrêtez de vous abuser, arrêtez de vous tromper vous-même à cause de votre statut social. Nous avons parlé qu'il y avait beaucoup de Grecs, des intellectuels, qu'il y avait beaucoup de gens riches. Il y en a qui se trompent avec leur statut social, qui disent « oui, moi j'ai tout ce qu'il faut, moi si, si ». Non, arrêtez de vous tromper. Vous connaissez la vérité, mais vous ne voulez pas vous y conformer. Que les ouvriers donc ne s'abusent, que les ouvriers acquièrent plutôt la sagesse divine dont nous avons parlé au chapitre 2. C'est la sagesse du monde ne mène nulle part. C'est pour ça qu'il cite ici le Job, chapitre 5, verset 13, au verset 19, il dit « Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. » C'est vraiment une citation de Job 5, verset 13. Et encore, il dit « Le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. » Alors, arrêtez de vous abuser. C'est vain, votre savoir, votre philosophie, etc., philosophie grecque de l'époque. Il y a des gens qui s'abusaient, qui croyaient que notre pensée est supérieure, etc. Arrêtez de vous abuser. Amen. La raison est que cela ne vous amènera nulle part. Donc, cherchez plutôt à acquérir la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse de Dieu. Donc, il dit à ces mêmes ouvriers qu'ils sachent aussi que la sagesse du monde est une folie devant Dieu. C'est ce qu'il dit. La sagesse du monde est une folie devant Dieu parce qu'elle est basée sur une connaissance très limitée. On croit qu'on est sage, on connaît beaucoup. Pourtant, depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, la connaissance ne fait qu'augmenter. Ça veut dire qu'elle était limitée. Et encore aujourd'hui, elle est encore limitée. Elle va à un rythme exponentiel, nous disait le pasteur Bourget l'autre jour. Donc, elle est limitée. Vous ne pouvez pas vous baser sur cette connaissance pour dire « je suis sage ». Non. Dieu confond les sages de ce monde et il y a beaucoup de choses qui sont encore voilées à ces personnes. Alors si la sagesse humaine ne peut pas sauver, si la sagesse humaine ne peut pas vous amener loin, elle ne peut pas non plus bâtir l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Elle ne peut pas bâtir l'église. Vous ne pouvez pas vous baser sur ça pour dire c'est de cette sagesse dont nous servons pour bâtir l'œuvre de Dieu. Non, nous devons nous baser sur la sagesse de Dieu. Ça c'est le premier aspect qu'il adresse aux Corinthiens, chapitre 19 et 20. Et le 20, et le 21 à 23, là, il s'adresse maintenant au peuple, à l'assemblée. L'assemblée a aussi une part. Il leur avertit en disant que personne, donc, ne mette sa gloire dans les hommes. Arrêtez d'encenser les hommes. Arrêtez de donner la gloire aux hommes. La gloire revient à Dieu. Ce n'est pas les hommes qui sont responsables de la croissance de l'Église. La croissance de l'Église tient à la volonté divine. Amen. Nous nous battons par des méthodes, des choses, etc. Mais si le Seigneur ne bâtit la maison, tous ceux qui le font en vain. Arrêtez donc de donner gloire aux hommes. La croissance de l'Église doit donner gloire à Dieu seul. Dieu seul à qui les ouvriers appartiennent. Paul appartient à Dieu. Apollos appartient à Dieu. Cephas appartient à Dieu, etc. Donc, arrêtez de donner la gloire aux hommes, mais donnez gloire à Dieu qui est la source de toutes choses, qui est la source de leur bénédiction, qui est la source même des dons et des talents qu'ils ont pour vous apporter ce qu'ils vous apportent. Il dit que personne ne doit donc se glorifier de ce que les êtres humains peuvent faire. Il y a un bon texte que j'ai trouvé dans Jérémie chapitre 9. On va le lire. Jérémie chapitre 9, le verset 23. Ça illustre bien ce qu'on est en train de dire concernant justement ce que les Corinthiens voulaient faire. Il dit « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. » Nous avions toutes ces catégories dans l'église à Corinthe. Il y a des gens qui se prenaient pour des sages, des philosophes, des gens qui se prenaient pour forts, ceux qui avaient l'art oratoire. Il y a des gens qui se posaient comme des riches. Que les riches, que les forts, que les sages ne se glorifient pas de tout ce qu'ils ont, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir qui je savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Très bien dit, très très bien dit. On se glorifie pour des choses qui sont passagères. Mais on devait se glorifier du Seigneur qui donne tout ce que nous avons besoin d'avoir. Donc arrêtons d'élever les hommes en fonction de ce qu'ils ont. Et il répète à deux reprises ce bout de phrase, il dit « Tout est à vous ». Pourquoi vous voulez prendre parti pour l'un, pour l'autre? Tous, ils sont à votre service. Que ce soit Paul, que ce soit Apollos, que ce soit Cephas, tous, ils sont à votre service. Les serviteurs sont à votre service. Le monde est à votre service. C'est l'ouvrage de Dieu. Même si temporairement, on sait que le monde est sous le contrôle de l'ennemi. Mais on sait qu'à la fin des temps, quand Christ reviendra rétablir son règne ici-bas, la terre nous appartient. La terre nous appartient. Donc le monde est à nous. C'est l'ouvrage de Dieu qu'il met à notre service. La vie est à nous. La mort aussi est à nous. Il le dit. Que ce soit le monde, que ce soit la vie, que ce soit la mort. Lui qui le dit, Paul, le dit aussi dans Philippiens 1. Quand il parle de dit, je voudrais tellement m'en aller. Je voudrais m'en aller. Il dit, mais la mort m'est un gain. Quelque part, la mort peut être un gain dans la mesure où ça nous soulage des souffrances de la terre. On n'est pas fait éternel ici sur terre. À un moment donné, on doit partir. Des fois, quand la mort vient, ça vient comme un soulagement. Ça vient nous enlever toutes les souffrances, etc. La mort peut aussi être quelque chose qui est pour nous, quelque chose de bon pour nous, parce que ça nous soulage. Donc, tout ça est à vous. Le monde, la vie, la mort, les choses présentes, tout ça est pour vous. Les choses à venir, les bénédictions, les promesses de Dieu à venir, tout ça est pour vous. Tout est à vous, parce que nous sommes cohéritiers de Christ. Nous sommes cohéritiers de toutes choses par Christ. Amen. Romains 8, versets 16 à 17. On n'a pas besoin de le lire, mais on peut le lire. Tout est à nous. C'est 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, etc. Donc, Dieu a tout assujetti en Christ. Et si nous sommes co-héritiers de Christ, nous avons toutes ces choses pour nous. Amen. Donc, nous avons les dons les plus précieux qui sont offerts à tous les croyants sans distinction. Nous avons tout ce qui est bon, tout ce qui est saint est destiné à nous bénir, nous les croyants. Toutes ces choses sont à nous et que la gloire revienne seulement à Dieu, pas aux hommes. Il dit, parce que vous êtes à Christ, oui, nous appartenons à Christ, nous appartenons à Christ, nous sommes les enfants d'un même Père, mais nous avons la responsabilité en tant que croyants vis-à-vis de ce Christ. Si nous sommes à lui, nous avons une responsabilité vis-à-vis de lui, vis-à-vis de notre Sauveur et de notre Seigneur. Et donc, il termine en disant, en substance, il ne le dit pas en termes clairs, tout est à vous, arrêtez de vous diviser. Tout est à vous, arrêtez d'entretenir ces sentiments de tel appartient à tel, tel appartient. Tous ces serviteurs sont à votre service. Amen. Vous devez simplement rechercher l'unité. L'unité qui va bénir l'œuvre de Dieu, l'unité qui va faire grandir l'Église. Et c'est cela donc le texte du chapitre 3.